Nous sommes un nouveau rendez-vous avec les carnets de Comaguerre, un nouveau rendez-vous avec Silly. Bonjour Silly.
Bonjour.
Merci de ton intervention. Bonjour Roselyne. Bonjour. Et on attend Habib qui est dans les embouteillages mais qui va nous rejoindre et ce qui nous donnera l'occasion de parler de la Syrie avec une bouche autorisée. Mais je vais commencer par un autre pays dont on parle encore moins que de la Syrie qui s'appelle la Corée du Sud. Pourquoi ? Par le pur effet du hasard, j'ai eu l'occasion de rencontrer un Coréen du Sud. C'était vendredi soir dans un théâtre marseillais, dans ce qu'on appelle un one-man show. Mais plus que ça, c'est pas seulement un acteur. Il rédige de la musique, il fait les textes et tout. Et il produisait trois petites pièces de 45 minutes sur ce que c'est que la Corée du Sud aujourd'hui. Et j'y reviendrai. Et puis, le lendemain, donc c'était le samedi, c'était une fête de l'Association nationale des communistes, ANC en abrégé, qui avait invité, comme elle l'avait fait l'année précédente d'ailleurs, des délégations, un certain nombre de délégations étrangères pour parler de l'impérialisme européen, pour parler du colonialisme, avec des, évidemment, vous l'imaginez, des visions et des positions critiques. Et parmi les invités, à la même enseigne que l'année dernière, il y avait une délégation assez forte, puisque j'ai compté, je crois, 5 ou 6 personnes, une majorité de jeunes femmes et quelques garçons, une majorité de jeunes femmes, venues spécialement de Corée du Sud pour l'occasion, et qui avaient préparé donc un discours qu'ils ont prononcé devant le public pour une tribune sur l'impérialisme. C'était le sujet. Et je vais commencer par vous parler d'eux. D'abord parce que c'est extrêmement rare de se trouver en présence de 6 Coréens du Sud, de 6 Coréens du Sud militants, qui ne sont pas simplement des vendeurs de chez Samsung ou des vendeurs... Bon, voilà. Samsung, qu'est-ce qu'il est ? Mais en fait, c'était la marque coréenne probablement la plus connue du grand public mondial. Mais il y en a beaucoup d'autres. Bon. Et donc, cette rencontre était extrêmement riche parce que ces 6 personnes, donc venues spécialement de Corée du Sud, représentent un jeune parti qui s'appelle le Parti populaire démocratique. Il a été créé en 2016... Je ne sais pas. Enfin, ils sont en train de s'installer dans le paysage politique sud-coréen. Ce n'est pas facile parce que, vu leur positionnement et vu leurs objectifs, qui sont très très clairs dans les statuts constitutifs du parti, il s'agit de tout faire pour la réunification de la Corée et du peuple coréen dans sa totalité, du Nord et du Sud. Vous voyez que l'objectif est d'une grande ambition. Et en même temps, c'est un espèce d'ordre du jour obligé, puisqu'il faut toujours rappeler, quand on parle de la Corée, des deux Corées, que ces deux pays sont dans une relation d'armistice, c'est-à-dire ils étaient en guerre avec chacun des alliés de son côté, et officiellement il n'y a qu'un armistice, c'est-à-dire il n'y a aucun texte qui règle les rapports normaux et durables entre ces deux États, qui sont tout aussi coréens l'un que l'autre, ils parlent la même langue, ils ont la même histoire longue, puisque la Corée a une longue, très très longue histoire. La Corée, pour ceux qui ne connaissent pas, je la resitue, parce que par rapport à l'immense culture chinoise et par rapport à l'immense culture japonaise, la Corée qui est entre les deux a toujours eu cette capacité extraordinaire d'avoir sa culture à elle, sa langue à elle, de ne pas être écrasée, de n'être ni une mauvaise copie, une petite copie, une dépendance de l'Empire chinois, pas plus qu'une dépendance de l'Empire japonais. Et ça, c'est une force extraordinaire qui n'est pas perdue. Et donc, ces jeunes gens, ces jeunes femmes et ces jeunes hommes qui venaient de Corée du Sud, dans le message de leur parti, donc Parti populaire pour la démocratie, sont porteurs de ce message. Nous venons de loin, nous, Coréens, et nous voulons commencer à retrouver notre place dans le concert des nations en tant que Coréens, tous ensemble. C'est ça le but de leur parti, c'est ça qui justifie leur action militante et le voyage qu'ils ont fait en France. Alors, je ne sais pas s'ils venaient spécialement et uniquement pour la fête de ce week-end, mais je pense qu'ils ont dû profiter, valoriser leur voyage. Mais c'est très, très rare qu'ils soient invités, vous l'imaginez, vu le discours qu'ils tiennent, sur des radios publiques ou même dans des grandes réunions publiques à d'autres endroits que celui-là. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit, en gros, beaucoup de choses, mais qui sont reprises dans un texte dont j'ai la traduction française. Ils ont prononcé leur discours en anglais, vous imaginez, et il était traduit en simultané, ou il était traduit plutôt par une interprète qui était sur le podium avec eux. Mais je vais vous en lire quelques passages essentiels pour bien vous resituer dans cette ambiance coréenne. Le titre, c'était, puisque c'était l'ordre du jour de la réunion qui se tenait ce samedi, c'était « La lutte du peuple coréen contre l'impérialisme américain et l'OTAN ». De 1910 à 1945, durant 36 ans, les Coréens ont mené la lutte armée et le soulèvement de tout le peuple contre l'impérialisme japonais, ce qui a permis de libérer la Corée. Alors je m'arrête sur cette phrase parce qu'il faut savoir qu'à partir de 1910, le Japon occupe la Corée militairement, inflige à ce pays et à cette population un traitement extrêmement dur. Pratiquement, donc, la langue coréenne devient interdite. Les non-coréens sont bien interdits. Donc, il y a une espèce de... Les Coréens passent dans la clandestinité. Ils n'existent plus en tant que peuple indépendant. Ils deviennent japonais. C'est ça qui explique leur position par rapport au Japon. Mais ils ajoutent, et là je reprends le texte du Parti populaire démocrate, « Cependant, l'impérialisme américain a remplacé l'impérialisme japonais en Corée et cette dernière a été divisée en deux et colonisée à nouveau. » Ce qui fait donc, faites le compte, 1910-2021, ça fait donc 110 ans, 111 ans de colonisation, avec deux colonisateurs qui se sont passés le relais. Alors je m'arrête un peu sur ce colonisateur japonais. Et il l'explique bien dans le document, mais je vais l'expliquer plus brièvement. Il faut savoir que quand les Japonais, on est à la fin du 19e siècle, voient arriver les colonisateurs européens avec leurs gros sabots et leurs gros bateaux et leurs grosses artilleries, c'est ça que ça veut dire, la réaction de l'empereur et de l'empire japonais, c'est de dire... Il faut qu'on copie ce qu'il y a d'intéressant. Pourquoi ils nous dominent ? Pourquoi ils veulent nous envahir ? C'est parce qu'ils sont en avance technologiquement. Ils ont des armes qu'on n'a pas. Ils ont des capacités industrielles qu'on n'a pas. Il faut qu'on rattrape ce retard. Sinon, on sera colonisé. Ça, c'est la réaction de l'Empire japonais qui dit « Donc, je vais imiter par tous les moyens possibles ce qu'ont fait les Occidentaux pour ne pas être obligé de leur céder, de céder à leur colonisation. » C'est en gros ce qui va se passer. C'est-à-dire que c'est l'empereur et l'empire, dans sa structure politique qui ne change pas, qui va, à marche forcée, décider d'occidentaliser la technique et l'industrie du Japon. Pas le Japon, d'occidentaliser, de prendre à l'Occident tout ce qui fait sa supériorité technique passagère, c'est-à-dire des armes nouvelles, des industries nouvelles que le Japon n'a pas. Donc de copier en essayant de, j'allais dire, sauver l'âme japonaise. C'était ça l'idée. Bon. En fait... C'était beaucoup plus pernicieux que ça, parce qu'en copiant les méthodes militaires, les méthodes industrielles, les méthodes de gouvernement, alors le gouvernement impérial avait ses méthodes, mais ils se sont vite pris à ce jeu, et en fait, ils ont pris dans l'arsenal colonisateur et impérial européen la tendance colonisatrice. C'est ça qui se passe. Ils ont tout absorbé à la fois. Alors ils ont un peu sauvé leur régime, sauvé l'empereur, sauvé leur tradition, mais en fait ils ont aussi pris dans l'Occident ce qu'il y avait de pire, c'est-à-dire le colonialisme. Et à qui ils s'en sont pris ? Ben aux voisins, qui eux n'étaient pas dans une meilleure situation du point de vue industriel. Ni l'empire chinois à l'époque, ni la Corée n'étaient très développés technologiquement. Ils avaient autant de retard que le japonais sur l'industrie occidentale envahissante. Et donc à qui ils s'en sont pris ? Ils s'en sont pris d'une part... à la Chine, qu'ils ont envahi, et ils s'en sont pris, d'autre part, à la Corée, qu'ils ont envahi, donc en 1910. La Chine, ça a pris un peu plus longtemps, on sait que c'est à partir de 1930. Bon. Au passage, d'ailleurs, ils s'en étaient pris à l'Empire tsariste, qui, lui, était dans le camp des colonisateurs et des impérialistes à l'époque, jusqu'en 1917, il est dans ce camp-là, et ils aussi, ils avaient attaqué et battu, d'ailleurs, militairement, l'Empire tsariste, au début du siècle. Voilà ce que c'est que cet impérialisme japonais, et donc que les Coréens, je reviens sur les Coréens, à partir de 1910, sont extraordinairement maltraités, considérés comme des serviteurs, des esclaves, par l'impérialisme japonais, qui est très 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 violent, très très agressif. Il le sera, on le sait, en Chine. Enfin, bon, tout ça est très connu. Et je reviens un peu à des éléments de ce discours donc des camarades du Parti démocratique du peuple. Après la guerre de Corée, dans un pays complètement anéanti, Les Coréens, tant au nord qu'au sud, ont reconstruit l'économie par la force du peuple et se sont relevés des ruines de la guerre. Je m'arrête encore sur cette phrase-là. Parce qu'il faut savoir que la guerre qui dure de 50 à 53, la fameuse guerre de Corée, qui est un peu passée de nos mémoires, bien qu'il y ait eu un corps expéditionnaire français et tout, beaucoup de gens n'en retiennent, pour ceux qui le connaissent, qu'un tableau de Picasso, qui est aussi dur et aussi symbolique que celui sur Guernica pour la guerre d'Espagne, mais le tableau sur la guerre de Corée est beaucoup moins connu que le tableau de Guernica. Mais il y a eu très très peu de témoignages, ni dans la culture des intellectuels français, dans la culture française, sur ce qu'a été cette guerre de Corée, qui a été sauvage. Elle a conduit à ce qu'il y ait deux pays, non pas parce que les Américains ont tout gagné, tout envahi, mais parce que les Américains se sont heurtés à une opposition farouche, militaire, très forte, de l'armée populaire de libération chinoise, qui a permis à ce que le pays soit divisé en deux, c'est-à-dire que les Américains, dont le but était de prendre la totalité, de remplacer totalement les Japonais sur la totalité du territoire, n'ont pu prendre que la moitié. Et ça s'arrête symboliquement, c'est ce qui est dans l'accord d'armistice, au 38e parallèle qui coupe la péninsule en deux morceaux. Alors retenez donc ce rôle de l'armée populaire de libération chinoise, un rôle un peu moins direct de l'URSS qui, en 1950, l'URSS est en train de panser ses plaies. 27 millions de morts, un territoire dévasté, etc. L'URSS va apporter une aide matérielle importante à l'armée chinoise et à l'armée coréenne, mais n'interviendra pas fortement dans les combats elle-même. Donc c'est vraiment la Chine populaire, toute neuve récente, hein, un an la Chine populaire, quand la guerre de Corée commence, qui va permettre, alors je passe sur les détails de la guerre de Corée, mais de stabiliser à moitié de la péninsule entre d'un côté un régime socialiste, de l'autre côté un régime capitaliste, qui est donc tenu par les Américains, puisque c'est ce que nous ont dit nos Coréens du Sud. Ils ont dit, en fait, l'impérialisme japonais, sur notre partie coréenne du territoire, a été remplacé complètement par l'impérialisme des États-Unis. Et ils disent, pour expliquer ça, ainsi la Corée du Sud a acquis l'image somptueuse d'un pays capitaliste développé, mais ce n'était qu'une apparence, puisque en réalité, elle s'est complètement décomposée de l'intérieur et est devenue une société entièrement subordonnée et déformée. Alors quand ils disent ça, j'y reviendrai sur les questions culturelles, ils disent qu'en fait, la culture de masse en Corée du Sud est une copie conforme de la culture de masse des États-Unis. Les mêmes chanteurs, la même musique, etc., les mêmes modes du marketing, etc. Je rappelle ce qu'ils disent pas dans leur texte, mais qu'il faut savoir que de 1953, donc de la division, jusqu'à 2008, je crois, la Corée du Sud vit en état de siège militaire. Elle est dirigée par des généraux. Il n'y a donc pas de liberté publique, pas de vie syndicale, pas de liberté associative. Bon, alors, depuis, ça s'est un peu desserré, mais tout ça pour être déformé. Je garde l'expression de ces camarades, notre pays est déformé. Et disent l'économie sud-coréenne est subordonnée et déformée dans tous les secteurs de production. Tous les segments tels que la technologie, les ressources en matières premières et les marchés sont subordonnés aux capitaux étrangers, tandis que les secteurs de l'industrie lourde et légère et de l'agriculture sont détruits et fragmentés. La société sud-coréenne est devenue une société qui ne peut pas marcher par elle-même, qui ne peut vivre que grâce aux exportations. Donc culture de dépendance. Hein. Alors quand vous entendez le mot culture d'exportation, vous pensez tout de suite au FMI qui arrive en disant eh ben, organisez-vous pour exporter. Si vous n'avez pas assez à manger avant de exporter, tant pis pour vous. Mais enfin, il faut que vous vendiez. Hein. Et donc arrêtez vos industries traditionnelles, hein, faites de l'industrie export, parce que nous, FMI, nous impérialistes, c'est ça qui nous intéresse. Le reste ne nous intéresse pas. Et ils ajoutent, alors ça c'est l'aspect militaire, et puis il y a l'aspect économique. Dans le même temps, en obéissant aux ordres de l'impérialisme américain, la Corée du Sud est devenue, au niveau militaire, une tête de pont pour l'invasion du continent, avec pour cible la Corée du Nord, la Chine et la Russie. Et au niveau diplomatique, alors ils utilisent l'expression, mais qui sens en anglais, le tampon en caoutchouc. C'est-à-dire que vous avez l'image du tampon qu'on met dans des bureaux pour officialiser une position. Bon, ils disent la position du gouvernement de la Corée du Sud, ça consiste à mettre un tampon de validation sur tous les documents fabriqués à Washington. On n'est pas plus dépendant. Et donc, pour en arriver à cette conclusion, ainsi, pour l'impérialisme américain, la Corée du Sud est un point d'appui stratégique qu'il ne peut pas lâcher, Selon les circonstances, si dans une situation extrême une guerre éclate dans la péninsule coréenne, cette guerre pourrait être féroce et même devenir nucléaire en opposant la Corée du Nord, la Chine et la Russie d'une part, et l'impérialisme américain, le militarisme japonais et l'impérialisme européen d'autre part. Il rappelle à cette occasion qu'il y a de ça pas si longtemps, un porte-avions français est venu croiser dans les eaux coréennes pour bien montrer de quel côté nous étions. De même qu'un porte-avions et des sous-marins britanniques. Donc ça, ils parlent bien de l'OTAN et ils ont raison. Même si l'OTAN est le traité de l'Atlantique Nord, enfin on sait que ça c'est formel, l'OTAN est le bras armé et diplomatique de la politique impérialiste des États-Unis. Et la France joue son rôle avec ses petits outils pour montrer qu'elle est bien polie, bien obéissante et qu'elle fait tout ce que le patron demande. Alors, il parle nucléaire. Alors, quand on parle nucléaire, il faut savoir qu'effectivement, on vous parle souvent avec un froncement de sourcils inquiet. Ah, vous savez, la Corée du Nord a l'arme atomique, et c'est vrai qu'ils l'ont. Mais on ne vous dit pas qu'il y a d'abord sur le sol de la Corée du Sud 35 000 soldats américains, dont l'entretien est payé par le gouvernement sud-coréen, c'est-à-dire que c'est le contribuable sud-coréen qui nourrit ces 35 000 soldats. Et que sur la péninsule, sur la partie sud-coréenne de la péninsule, et dans les eaux tout autour, et dans les eaux même au large de la Corée du Nord, il y a des bâtiments de guerre des États-Unis en permanence, porteurs tous de bombes atomiques, et qu'il y a probablement même sur le sol coréen lui-même des bombes atomiques américaines. Donc l'image qu'on essaye de véhiculer ici, de dire « il y a un méchant avec la bombe atomique et des gentils au sud qui ne l'ont pas », c'est faux. Hein, c'est totalement faux. Il y a effectivement la Corée du Sud a un armement nucléaire dont elle n'a pas la maîtrise. C'est ça la réalité. C'est pas autre chose. Hein. On a bien. Alors, ils ont raison d'insister. En fait, c'est un face-à-face nucléaire entre les États-Unis et la Corée du Nord. Alors, il faut ajouter que l'excitation, enfin, l'énervement occidental vis-à-vis de la Corée du Nord s'est amplifié ces dernières semaines, puisque la Corée du Nord a annoncé que non seulement elle avait des bombes atomiques, ça on le savait depuis un certain nombre d'années, pas beaucoup, hein, rien à voir avec les stocks gigantesques des États-Unis, mais qu'en plus, elle avait mis au point des missiles hypersoniques, ce qui veut dire qu'elle était en capacité d'arrêter toute tentative d'attaque sur son sol. Bon, et là, on s'est dit encore, alors, on est toujours dans la même logique, un pays qui est décidé à se défendre contre des menaces impérialistes est pointé comme l'agresseur, alors qu'il ne fait que se mettre dans la situation de pouvoir défendre son sol. Je reviens un tout petit peu à propos de défendre le sol sur la façon dont s'achève la guerre de Corée. C'est en gros un tiers de la population coréenne qui est mort en 3 ans, un tiers. Il faut savoir, et faites une recherche sur Internet, regardez des photos de Pyongyang, la capitale de la Corée du Nord, au soir de l'armistice en 1953. C'est copie conforme à l'image de Hiroshima au soir du 6 août 1945. Il n'y a plus rien. La seule différence, c'est vrai que ça n'a pas été le fait de bombardement atomique, mais de bombardement classique. Mais la Pyongyang était rasée, et toutes les grosses villes nord-coréennes étaient rasées. C'était ça, la guerre. Donc c'est de ça qu'ils sont repartis, et c'est ça qu'ils ont reconstruit à la force du poignet. Alors, ils sont soutenus politiquement et assez souvent économiquement par la Chine, mais dans la culture coréenne, il faut d'abord compter sur ses propres forces. Là, j'utilise une position des Chinois. Mais si on n'est pas capable de faire quelque chose, c'est pas la peine de demander de l'aide. L'aide ne servira à rien. Il faut d'abord qu'on montre qu'on est capable de faire quelque chose. Et l'aide s'insère dans notre capacité. C'est ça le raisonnement qui est très, très, très chinois par ailleurs. Et ils ont la conclusion. Alors, ils ont élargi le débat. Ils ont parlé de la Corée. Et puis, ils vont un petit peu plus loin. Je suis toujours dans leur discours. En conséquence, si une guerre mondiale éclate en Corée ou ailleurs, elle deviendra un affrontement violent et aigu entre les forces qui s'opposent à l'impérialisme, comme la Corée du Nord, la Chine, la Russie, Cuba, l'Iran, et les forces impérialistes comme les États-Unis, l'Europe, le Japon et Israël. Au Moyen-Orient, même s'il s'agit d'une guerre conventionnelle, il y a des tirs constants, et en Extrême-Orient, même s'il n'y a pas de tirs, la situation reste extrêmement tendue avec le risque de guerre nucléaire. Et il conclut, portée générale, puisque c'était un meeting international, « Bien que la révolution et la construction se déroulent dans chaque nation, il est clair que l'impérialisme est l'ennemi commun de tous les peuples dans un monde étroitement lié. Accomplir sa propre révolution dans chaque pays signifie accomplir la révolution mondiale, et accomplir la révolution mondiale signifie accomplir sa propre révolution dans chaque pays. Il convient donc d'insister sur l'importance de la solidarité internationale, voire de l'unité internationaliste. » Alors je passe sur la fin, ici il cite quand même la Commune de Paris, ça fait toujours plaisir à entendre dans la bouche d'un Coréen. Et le cocasse de cette réunion, c'est que sur la tribune, il y avait donc un Italien, il y avait donc deux Boliviens dont je reparlerai, il y avait donc le porte-parole du groupe coréen, et tout le monde, à la fin du discours des Coréens, se met à chanter en espagnol « El pueblo unido jamás será vencido ». Et ça, c'était très touchant, et je reste sur cette impression. Voilà, donc ça c'était la première vision de la Corée du Sud et donc de ces jeunes militants de ce parti populaire démocrate. Et puis ça faisait écho à un spectacle que j'avais vu exactement la veille. Donc un spectacle qui est un spectacle total, c'est-à-dire avec de la vidéo, de la musique, etc., interprété par un monsieur qui s'appelle Ja Ha-Koo, donc qui est un vrai Coréen du Sud, qui a mis tout ça en scène et qui fait une tournée en Europe. Alors pourquoi une tournée en Europe ? Parce que ce monsieur s'explique en disant « Je suis Coréen du Sud, j'ai 37 ans, j'ai quitté mon pays parce que j'y étouffe, et donc je suis en Europe pour essayer de vous expliquer un petit peu. C'est ça mon travail d'artiste, par la médiation du spectacle théâtral, je vous essaye de vous faire partager ce que nous vivons. » Et il l'a fait sous forme de trois courts textes et trois shows de 45 minutes chacun, avec chacun un thème particulier. Le premier est un texte qui porte sur sur l'espèce d'inquiétude qui a été mise dans la tête des Coréens du Sud pour bien parler anglais. Puisqu'on est colonisé par les Anglais, il faut parler anglais. Et puis, on parle en anglais parce que pour vendre nos produits, Samsung, etc., à l'étranger, en général, l'anglais, ça sert, etc. Bon, et puis, c'est une forme de domination. Alors, ils parlent coréen entre eux, c'est pas comme l'occupation japonaise, mais l'anglais sert dans la vie courante, et il sert beaucoup, et puis dans la publicité, enfin, vous imaginez ça, parce que nous aussi, on n'échappe pas totalement à ça. Et ce qu'ils racontent, et c'est là que ça devient extrêmement douloureux, c'est qu'il y a des familles qui sont tellement inquiètes de l'avenir de leurs enfants, et donc pour une famille de la petite moyenne bourgeoisie coréenne, il s'agit que cet enfant parle parfaitement l'anglais, parce que c'est l'avenir, peut-être même le départ vers les États-Unis ou ailleurs. Ils en arrivent, et c'est ce qu'ils racontent dans cette pièce, à faire des interventions chirurgicales sur la langue du petit garçon ou de la petite fille, la langue, le muscle qu'on a dans la bouche, hein, pour que ces jeunes enfants arrivent à prononcer correctement les R britanniques. Vous savez, le R britannique, vous savez que pas plus que les Chinois d'ailleurs, et les Asiatiques de cette région du monde n'arrivent pas, avec leur structure, la façon dont ils sont bâtis et leur morphologie, ils n'arrivent pas à bien prononcer le R. Il n'y en a pas dans leur langue, et le R pour juste une difficulté. Bon, donc il y a des parents sud-coréens qui font donc intervenir chirurgicalement sur leurs enfants pour que les enfants prononcent bien le R, pour qu'ils n'aient pas d'accent coréen, pour qu'ils aient l'accent américain. Bon, ça c'est très douloureux déjà, c'est une forme de colonisation complètement intériorisée. Ça c'était la première pièce. La deuxième, c'est une pièce où l'acteur se met en scène avec trois autocuiseurs à riz. Alors, vous connaissez peut-être les autocuiseurs à riz. C'est une grosse vente, c'est un gros succès de l'industrie coréenne. Ils appellent ça des coucous en anglais. Et donc, le jeu de l'acteur, donc le jeu de Ja Ha-Koo, consiste à parler. Il est tout seul dans sa chambre. Il explique que le destin, enfin, la vie des jeunes, des adolescents coréens aujourd'hui se passe principalement dans leur chambre, devant leur tablette ou devant leurs jeux vidéo, qui ne voient pas grand monde, qui sortent pas beaucoup, et que donc ils sont environnés d'objets, d'artefacts, et les contacts humains ne sont pas si importants. Et donc ce qu'il met en scène, c'est une farce, une espèce de farce, il fait parler ses autocuiseurs à riz, et il discute avec eux, c'est-à-dire que la seule fréquentation non humaine qu'il a, c'est la discussion avec son autocuiseur à qui il a donné la parole. On mesure aussi un niveau d'aliénation au progrès technique, et puis de d'écrasement. Ben, si lui, il a dit à 37 ans, enfin, à 32 ans, j'ai quitté la Corée du Sud parce que j'ai tout fait, c'est parce qu'il recherche des contacts humains. Il en a assez de voir que des objets, des tablettes, etc. Et là, bon, il fait parler donc ses autocuiseurs par dérision. Mais ça en dit très très long sur l'état de la Corée du Sud. J'allais ajouter, et ceci n'est pas du tout indépendant de ce que je dis, qu'aujourd'hui les taux de natalité en Corée du Sud sont extraordinairement faibles. C'est-à-dire que même les parents hésitent à donner le jour à des enfants qui vont être condamnés à passer leur vie devant un écran. Il y a à peine un enfant par femme féconde. On est des taux parmi les plus bas du monde. Et la troisième pièce, je finis sur la troisième pièce, c'était une pièce qui reparlait de la colonisation japonaise, puisqu'il expliquait dans cette pièce qu'effectivement, au moment où les Japonais arrivent, donc en 1910, s'installent, ils créent toute une discipline de théâtre à l'école, donc du niveau du lycée, du collège et à l'université, il y a des enseignements de théâtre, où on enseigne que le théâtre occidental. C'est-à-dire qu'un Coréen de l'époque est interdit de faire autre chose que de lire du Shakespeare, du Molière. Alors, tant mieux pour lui, pour sa culture. Mais il ne faut surtout pas qu'il utilise sa culture et ses spectacles traditionnels. Voilà. Donc, il faut qu'il vide sa tête de sa culture. Ça a été ça, l'impérialisme japonais. Et ça, il le met très très bien en valeur dans son spectacle. Alors c'est très intéressant parce qu'il le fait, donc c'est très cocasse, c'est très très bien vu au niveau de la mise en scène, etc. Et en même temps, ça fait comprendre, je l'ai ressenti comme ça, à un public européen qui n'a pas une habitude régulière de se préoccuper de l'état de la Corée du Sud, ce que c'est réellement que ce pays, dont on ne voit effectivement que Samsung et Hyundai et des choses comme ça. Bon, c'est pas que ça, c'est un pays qui souffre, et quand les amis là, du Parti populaire disent « notre pays est déformé », il faut voir que c'est de ça qu'ils souffrent. Et donc on leur souhaite, j'allais terminer là-dessus, on souhaite qu'effectivement la démarche de cette partie donc démocratique populaire aboutisse. Alors pour l'instant, on sait qu'il y a eu des débuts d'ouverture pour un rétablissement de relations plus suivies entre le Nord et le Sud. Ça s'est un peu calmé parce que Trump a fait une énorme pression pour que ça se calme. Mais manifestement, il y a toute une série de signes en profondeur pour que ça continue. Et dans la mesure où la Corée du Nord tient le coup, c'est-à-dire montre qu'elle n'a pas peur de l'adversaire, donc il faut avoir d'espoir que ces choses-là avancent. Et ce sera un bien parce que c'est le seul endroit du monde où un armistice de 1945 est la seule règle entre deux pays voisins, et qui sont en plus des pays frères, qui ont la même culture, la même langue. Voilà. Je voulais terminer cette séquence sur la Corée du Sud pour vous dire qu'il y avait aussi donc à cette réunion de l'ANC une délégation bolivienne avec laquelle donc j'ai fait une interview que vous entendrez, qui sera le gros de l'émission de mardi prochain, puisque c'est une émission qui vous fera comprendre ce que c'est que la capacité de résistance d'un peuple à la colonisation extérieure et à l'impérialisme. Sous une autre forme, c'est sous une autre forme que les Coréens, mais c'est aussi la capacité de résistance. On en parlera. Pour terminer, pour changer de sujet, donc je vais vous passer quelques minutes d'une chanson de Corée du Nord, alors qui va peut-être faire sourire nos amis de Corée du Sud s'ils l'écoutent, mais c'est une chanson qui dit « Mort à l'agresseur impérialisme américain ». Alors on va en passer quelques minutes, parce que bon, vous verrez, c'est le style. Alors c'est combatif, c'est un peu guerrier, mais je rappelle qu'il y a un tiers de la population de la Corée qui est mort pendant la guerre de Corée. Donc ça laisse un souvenir, et c'est pas, il n'y a pas si longtemps. comprenais pas le coréen, moi non plus, d'ailleurs. Mais c'était pour vous donner un avant-goût. Mais c'est une chanson guerrière, parce que c'est pour lutter, ben, pour s'opposer à ce qu'ils ont subi.
On dirait un groupe russe.
Oui, il y a de ça, il y a des influences. C'est un appel au combat. C'est mort à l'agresseur américain. Et eux, alors, plus que, à la limite, ils en ont plus souffert que les Russes, parce que les Russes ont souffert de l'agresseur hitlérien, moins de l'agresseur américain. Et eux, ils en ont souffert directement. C'est donc vrai. Ils ont un mauvais souvenir, et ils expriment qu'ils ne veulent pas se laisser faire une nouvelle fois. Voilà. Donc, c'est peut-être la première fois sur Radio Galère qu'on entend un chant de guerre de militants nord-coréens, mais il faut le remettre dans ce contexte historique qu'on ne connaît pas et qu'on ne nous explique pas. Hein. Ils ont beaucoup, beaucoup souffert. Hein, et l'objectif, ça s'est arrêté parce qu'il y avait l'armée populaire chinoise en face. L'objectif de MacArthur, c'était de reconquérir la totalité de la péninsule coréenne et de là franchir la frontière pour liquider la République populaire chinoise qui venait d'être créée en 1949. C'était ça le but. Ouais. Et donc l'obstacle nord-coréen fait que l'opération s'est arrêtée là.
Mais il ne faut pas oublier que la présence française en Corée, elle était présente aussi.
Tout à fait. Alors, c'était les troupes de l'ONU. Parce que ce qui s'est passé, alors, il faisait la petite histoire, mais il faut se souvenir qu'à ce moment-là, l'URSS a quitté le Conseil de sécurité parce qu'elle considère qu'elle est trop maltraitée par le Conseil de sécurité. Et c'est en l'absence de l'URSS que la décision d'impliquer l'ONU dans la guerre de Corée est prise. Ce qui va amener toute une série de pays à envoyer un corps expéditionnaire. Il y a eu un corps expéditionnaire français, il y en a eu d'autres, etc. Donc c'est une guerre américaine principalement, mais avec un soutien donc, de toutes les puissances. Et dans l'abstention de l'Union soviétique, qui s'est bien rendu compte, heureusement, bon, les Chinois étaient là. Hein. Mais il y a eu effectivement un passage à vide. Parce que c'est une erreur. Ils voulaient pas, ils étaient maltraités, le Conseil de sécurité sert à rien, on vient pas. Et en fait, là, on a profité de la chaise vide pour faire démarrer l'opération guerre de Corée. L'opération dévastatrice. Voilà. On en a fini sur la Corée, et j'espère qu'on continuera à avoir des contacts avec ce parti de la démocratie populaire coréenne, et ces jeunes gens qui sont très organisés, qui sont pleins de bonnes idées pour l'avenir de leur pays dans sa totalité, et pour sortir de l'isolement des enfants devant leurs écrans. Parce que c'est ça aussi, c'est la solidarité, se joindre, se serrer les coudes, faire des choses ensemble. Voilà. On retrouvera la même leçon d'une autre façon chez les Boliviens la semaine prochaine. Mais on profite de l'arrivée d'Habib et de son retour, enfin, depuis quelque temps déjà, depuis la Syrie d'où il vient, pour qu'il nous parle de ce que c'est que la solidarité concrète avec un peuple qui souffre et un peuple qui lutte pour son indépendance. Voilà, raconte-nous, Habib.
Ben voilà. Je suis parti pour la Syrie, évidemment, pour des problèmes humanitaires, comme vous le savez. Et là, bon, je suis pas tellement surpris de ce qui se passe, mais enfin, là, je suis surpris en profondeur. Ouais. Alors, bon, donc, je suis parti Marseille-Istanbul, Istanbul-Beyrouth. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé aussi...
Il faut dire qu'il n'y a pas... Voilà, il y a embargo. Donc, la France boycotte la Syrie. Donc, il n'y a pas de vol direct.
Il n'y a pas de vol direct. Donc, on est obligé de passer par Beyrouth. Enfin. Voilà. Ceci dit, ce qui m'a beaucoup aussi surpris, c'est ce qui se passe aussi au Liban. Oui. C'est un peu le même problème que les Syriens, pratiquement. Il y a un embargo sur le Liban, il y a la loi César aussi qui est appliquée aussi. Il faut dire juste une phrase, ils veulent vraiment écarter le Hezbollah. Voilà, c'était pour ça qu'ils ont imposé au Liban cet embargo et César. Et là, je suis parti donc de Beyrouth, directement à la frontière syrienne. Et notre grande surprise, c'est que le Liban avait fermé la frontière entre la Syrie et le Liban. Pour des causes, je pense qu'il y a le problème de formation du gouvernement libanais, il me semble, d'une part, et d'autre part, le Covid. Mm-hmm. Bon, et là, on a trouvé quand même une issue. Et on est passé par un autre endroit qui s'appelle Jabel Qemar. Voilà, Jebel el Qemar.
Pas c'est... le chemin le plus court, mais non, vous êtes arrivé quand même.
C'était plus long. C'était plus long. On a passé pratiquement une journée pour y arriver à Tartous, en Syrie. Et là, bon, heureusement que j'ai des amis qui nous ont aidés. Car, bien sûr, c'est là que je suis arrivé à Tartous. Et très, très fatigué, surtout par une longue journée. Et là, bien sûr, surtout quand j'étais accompagné par le taxi, celui-ci, il me parlait d'un problème d'essence, qu'il n'y a pas suffisamment d'essence. Et c'est pour cette raison que ça on ne le savait pas hein, au début. Mmh. On ne savait pas. Donc, quand on est arrivé, j'étais surpris à Tartous, c'est que vers 20h, 21h, il y avait l'électricité. Alors que toute la journée, il n'y en avait pas. Mmh. Donc, il y avait pratiquement que 2 heures d'électricité pour la population syrienne. En ce qui concerne les hôpitaux et l'industrie qu'ils ont essayé de retaper, tout ça, l'électricité, elle est fournie 24 heures sur 24. Voilà. Alors, bon, j'étais surpris d'abord par cet arrêt d'électricité de 2 heures en 24 heures. Bien sûr, après, il y a d'autres trucs qui suivent. Il faut faire fonctionner les moteurs, les pompes pour envoyer dans les citernes l'eau. Donc, il faut profiter de cette occasion. Tout le monde court pour essayer de remplir les citernes d'eau. Donc, l'eau aussi manquait. Il fallait économiser au maximum. Alors aussi, la grande surprise, c'est que aussi, il y avait l'État syrien, il donnait 25 litres d'essence par mois, un prix très très bas. Par contre, après, il y a le marché noir. Alors, le marché noir, c'est 10 fois plus cher. Pratiquement 1,30€, comme ici. Comme ici. Alors, ça aussi, ça pèse lourd sur la population syrienne. Ensuite, il y a eu les gaz. Il n'y a pas suffisamment de gaz. Mmh. Donc, toujours l'État, elle fournissait une bouteille de gaz en 3 mois. Au-delà de 3 mois, si vous n'avez pas de gaz, vous êtes obligé d'aller dans le marché noir. Et là, c'est pareil, c'est encore
beaucoup d'argent.
10 fois plus. 10 fois plus cher que ce que donnait l'État. Alors, l'inflation, elle est galopante. 1 euro, pratiquement, dans les 3500 livres syriens. Et donc, il fallait que je m'en occupe. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même, j'insiste là-dessus, s'il y a cette crise économique en Syrie, c'est parce que l'Amérique a appliqué la loi César, d'une part, et l'Europe aussi qui a suivi l'embargo sur la Syrie, pareil que pour le Liban, hein, dans les mêmes trucs. Alors j'insiste aussi à dire que le peuple syrien souffre énormément. Et quand ça me fait de la peine, ça me fait même, ça a été très dur pour moi. Je suis parti peut-être avec un problème humanitaire, mais c'est très peu, c'est rien. Mais c'est toujours quelque chose, ça aide au moins une semaine. Mais bon.
Tu veux dire que tu as apporté de l'argent ?
Voilà, j'ai apporté de l'argent pour essayer, donc, surtout l'orphelinat. Je parle de l'orphelinat de Latakié. Mmh. Et puis, est-ce que j'ai le temps ?
Oui, non. Oui, vas-y, bien voilà. Sûr, tu as tout ton temps.
Alors, il y a l'orphelinat de Latakié qui a environ 150 enfants, dont ces enfants, ils ont perdu aussi bien les parents, les frères, ils n'ont plus personne. Voilà. Donc, il y a cet orphelinat qu'on appelle...
Voilà, c'est orphelin du fait de la guerre, il faut
le fait de la guerre, oui, la guerre qui a duré 10 ans. Voilà. Et surtout cette guerre qui a été menée par l'impérialisme américain, occidental et certains pays arabes, il ne faut pas oublier.
Qui ont financé.
Qu'ils ont financé d'ailleurs à fond. Je passe donc à cet orphelinat qui se trouve à Latakié. Et le truc, donc, pour essayer de mener une somme d'argent à ces gens-là, et il fallait trouver un transport. Le seul transport que j'estimais que c'était de mon devoir de le prendre, c'était le service syrien, on l'appelle. C'est une estafette qu'on utilise à un bas prix pour le peuple. Donc j'ai utilisé exactement le même truc que les Syriens qu'ils utilisent là-bas. Et bon, donc j'étais accompagné par une dame qui a voulu m'aider. Ensuite, bon, quand on est arrivé à l'orphelinat, ils m'ont dit qu'ils avaient des problèmes. Avant, ils avaient quand même des subventions et que maintenant, très très peu, c'est au compte-gouttes. Alors, vous êtes les bienvenus. Bon, c'est vrai, j'ai apporté une bonne somme d'argent. Et puis, je leur ai dit...
Cet argent que tu as ramassé dans la communauté syrienne,
dans la communauté
ici
syrienne à Marseille, c'est grâce à la... grâce à ces gens. Et je les remercie infiniment parce que, bon, ça a permis à l'orphelinat d'une part. D'autre part, il y a une autre association que j'ai été aussi, à Homs. Et à Homs, c'est Sanabil. Il y a Sawaré, l'orphelinat, et Sanabil, c'est Homs. Donc, eux, ils traitent le problème hémiplégique, tétraplégique, surtout de l'armée.
Voilà, des handicaps de la guerre consécutive.
Ouais, ouais.
À la guerre.
Voilà, et ils ont tous à peu près entre 18 et 30 ans.
Ouais, voilà. Des soldats blessés.
Des soldats blessés, jambes coupées, voilà. Le bras. Des fois, d'ailleurs, j'ai rencontré un qui avait... une balle dans la tête, on ne pourra jamais l'extraire, parce qu'on m'a dit que même certains docteurs russes, ils ont dit que si on l'a retiré, il mourrait. Donc, bon, c'est vrai que j'en ai rencontré beaucoup des handicapés, et ça me donne...
Victimes de guerre.
Ouais, oui, les victimes de guerre qui a été commis, comme je viens de le dire, par Daesh, Nusra, Jaïch al-Cham, etc. Tous les groupes terroristes. Et certains, d'ailleurs, il faut le dire aussi, certains militaires qu'ils ont quitté l'armée, qu'ils ont fui l'armée au début en 2011, ces gens aussi, ils étaient du côté d'Al-Qaïda et de Nusra aussi. Voilà.
Oui, il y a eu des désertions.
Des déserteurs militaires, oui.
Oui, parce que... Alors, ce qu'il faut dire, c'est qu'ils étaient probablement mieux payés par les Saoudiens et les Qataris qu'ils l'étaient par le gouvernement syrien.
Voilà. Alors, ben, je peux vous dire, je connais les salaires.
Eh bien, vas-y, on t'écoute.
ces gens-là, ils avaient dans le 400-500 euros... 500 dollars, c'est en dollars, hein,
oui,
parce qu'ils traitent le problème. C'est en dollars, alors que le militaire syrien, il a peine même pas 100 dollars.
Voilà, c'est tout. Voilà.
C'est clair. Hein. Bon, après Homs, à Tartous, là j'ai réuni aussi les femmes veuves que j'ai distribuées aussi.
Veuves de guerre, là.
Veuves de guerre, toujours. Moi, je me suis occupé uniquement...
Ouais, c'est bien que tu le précises pour les auditeurs.
C'est vraiment des femmes de veuves. Veuves de guerre, toutes à peu près entre 18 et 30 ans, comme leur mari. Et des fois, vous savez qu'on se marie très jeune en Syrie. Mm-hmm. Ils ont un enfant ou deux enfants à leur charge. Bon, c'est vrai que le pouvoir syrien, il faut le dire aussi... Il aide, mais très très peu. À certaines femmes, il leur donne du travail, par exemple dans les hôpitaux, fonctionnaires d'État ou un truc comme ça. Voilà. Ils aident, mais très très peu. C'est vraiment en dessous de 100 dollars. Voilà. quand on sait qu'il y a une inflation, il y a
et du marché noir.
Voilà, et surtout du marché noir, oui, marché noir. Alors, en ce qui concerne le produit alimentaire de première nécessité, ils sont distribués aussi par le pouvoir politique syrien. Il y a pas mal d'endroits où on distribue du riz, du sucre, de l'huile, voilà, dans un carton complet. Alors, le pain aussi, vous savez, il suit, hein, c'est... Le pain est contrôlé aussi par l'État. Chaque famille, on lui donne en proportion des enfants ou de ceux qui vivent dans la maison. Voilà. Ça aussi...
Puis ça correspond à ce qu'on connaît sous le ticket de rationnement.
Oui, c'est un ticket. D'ailleurs, je l'ai photographié de ce ticket de rationnement, aussi bien pour l'essence, voilà. Pour les trucs. Pour tout.
Voilà. État de guerre. Voilà, alors, je rappelle qu'il y a eu des tickets de rationnement en France.
Oui.
Et de 40 à 44. Ouais, ça fait 10 ans.
Deuxième guerre mondiale, oui. C'est vrai, il y avait un ticket de rationnement. Oui. Alors, qu'est-ce que je peux encore
tu
dire?
Tu parlais donc de la consommation alimentaire et tout.
Oui, voilà. La consommation alimentaire, bon, c'est vrai qu'il manque absolument rien. En Syrie, j'ai regardé le supermarché et tout ce qui s'ensuit, mais c'est le pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat est très, très, très bas. Voilà. Alors, quand vous voulez acheter un poulet, ça vous coûte dans le 15 000 livres syriens, alors que le mec qui touche dans le 100 000, c'est beaucoup. Quand on vous dit qu'un kilo de viande dans le 30 000 livres, ça aussi...
Un tiers du salaire. C'est,
ouais,
c'est pas possible.
Donc c'est vraiment... moi, j'ai dit que le peuple syrien, pendant 10 ans, a subi... Mais alors, je ne sais pas comment donner la valeur. Il a subi vraiment une économie très, très, très difficile. Surtout par le fait quand même que... J'ai même pris des photos aussi sur quand ils ont bombardé les endroits à Homs ou à Damas, tous les banlieues de Damas qui ont été détruits. Il y a eu pratiquement, je pense, 40% des villes, dans les villes syriennes, les villes les plus importantes... au moins 40% de destruction. Et actuellement, j'ai entendu parler que la Chine, la Russie, comme on appelle l'Iran, ils aident à construire, et tout particulièrement, le plus important, c'est l'industrie, les hôpitaux, tout ce qui est sanitaire. Voilà. Et surtout, maintenant, je pense que ça va aller dans le bon sens. Il y aura plus d'électricité. Parce que là, le gaz, je ne sais pas si vous avez entendu parler, Bernard, le gaz qui part de l'Égypte, de l'Égypte à Aqaba, via la Jordanie et la Jordanie, la Syrie, le Liban. Donc c'est vraiment quelque chose, on a l'impression que l'Amérique a fait un petit effort, je ne sais pas.
Oui, ou enfin, elle n'a pas pu faire autrement, peut-être. Non,
peut-être. Voilà, et de faire passer surtout Aqaba, la Jordanie, vous savez, sa position vis-à-vis de la Syrie au début.
Tout à fait.
Ils ont dit qu'il faut qu'à Bachar s'en aille.
Oui, tout à fait.
Le roi de Jordanie, il l'a bien, voilà. Alors, qu'est-ce que je peux dire, aide-moi, Bernard.
Non, mais je voulais dire, non, c'est bien que tu parles de ça, parce qu'en fait, depuis que tu es revenu, et ces derniers jours, il y a eu des éléments qui vont dans le bon sens, c'est-à-dire la fin réelle de la guerre et la fin de l'enfermement de la Syrie et du Liban, seul contre tous, russes et mis à part. Parce que les éléments nouveaux, c'est que d'une part, tu citais le roi de Jordanie, on sait qu'il y a quelques jours, il y a deux ou trois jours, il y a eu le premier échange de d'appels téléphoniques entre Bachar el-Assad et le roi Abdallah de Jordanie. C'est la première fois en 10 ans qu'ils se téléphonent. C'est-à-dire qu'il avait été interdit, les États-Unis avaient interdit au roi de Jordanie, qui est un de leurs disciples, de téléphoner à Bachar, parce qu'il, lui, il hurlait en disant « Bachar doit partir comme ici en France ». Bon. Et donc, ça, c'est un élément nouveau, mais ça s'est concrétisé, puisque j'ai vu des photos et des vidéos de l'ouverture de la frontière permanente entre la Syrie donc, et la Jordanie, cette frontière qui a été fermée pendant 10 ans et qui ne servait que de passoire parce que les combattants djihadistes ou les armées officielles, par exemple l'armée française, quand elle envoyait des services spéciaux ou des corps, des spécialistes sur le territoire syrien, le faisait depuis la Jordanie. La France avait une base sur la frontière jordanienne, qui était alimentée alors, par la grande base française qui était à Abu Dhabi. Mais de là, donc, tout le matériel arrivait. Et donc, quand il y avait des interventions françaises sur le sol militaire, sur le sol libyen, sur le sol syrien, ça passait par la Jordanie. La Jordanie a servi à ça. Le fait que la frontière soit réouverte, ça veut dire que ces mouvements de troupes n'ont plus lieu, c'est terminé. Donc,
il y a une reprise économique entre la Jordanie.
Voilà. Et puis, donc, il y a aussi le passage du gaz qui passe par la Jordanie, qui est un très, très bon signe.
Je voudrais, parce que j'ai oublié de dire que, attention, la Syrie a du pétrole et du gaz.
Voilà.
Mais par qui elle est occupée? Par l'Amérique.
Voilà.
Donc tous les puits de pétrole et du gaz sont occupés par l'Amérique. Voilà. Donc il faut insister que l'Amérique n'était pas l'allié de la Syrie.
Pas du tout.
Personne ne l'a invité. Alors elle est rentrée et puis elle s'est installée. Voilà. Et maintenant elle vole le pétrole. Et il l'achemine par la frontière irakienne via la Turquie.
Via la Turquie, en camion. Voilà.
Voilà, en camion, exactement. Ça, oui, ce sont des citernes, oui.
Tout à fait. Voilà. On voit des convois de camions qui emportent le pétrole volé. Voilà. Alors, ça explique, ça ne la justifie pas, ça explique la position de Trump qui, jusqu'à l'année dernière, disait « Mais il y a une société américaine qui exploite le pétrole là, je défends les intérêts de cette société américaine. » Bon, personne ne l'a invitée, elle vole le pétrole, elle n'a pas l'accord de l'État correspondant, mais elle vole. Et Trump disait « Moi, je soutiens mon voleur, en gros. » C'était ça. C'est ça la morale de l'histoire. Bon. Alors là, on peut imaginer que ça va quand même évoluer parce qu'il semble, d'après ces derniers mouvements, donc l'ouverture de la frontière jordanienne, ce qui veut dire un accord des États-Unis, c'est tout à fait clair, ça ne peut pas être autre chose.
Non, parce que c'est pour ça que j'ai dit ça.
Le fait que les pays arabes se mettent à rediscuter, quelle que soit leur position, avec le gouvernement syrien, donc que ce soit les Saoudiens, les Égyptiens, ça allait jusqu'à présent, ça allait tant que, depuis qu'il n'y avait plus les frères musulmans à la tête de l'Égypte. Le Liban, bon, il n'y a pas de souci, les pays vivent en symbiose. Le Liban va profiter d'ailleurs du gaz qui passe par du gaz égyptien qui passe par la Jordanie.
Même là, j'ai appris que le Liban a ouvert complètement ses frontières avec la Syrie.
Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est une évolution qui s'est passée depuis ton retour,
qui est très sensible.
Qui est, alors, certains l'interprètent comme le résultat concret de la rencontre, parce qu'il y en a eu une, vous vous souvenez, au mois de juillet, entre Biden et Poutine, à Genève, au cours de laquelle, manifestement, il y a un certain nombre de questions qui ont été réglées. Et les États-Unis ont dû dire, il a dû dire, bon, maintenant on arrête, on ne peut pas continuer partout, là, ces guerres-là.
Surtout, ils ont échoué partout.
Donc, plutôt que d'avoir un départ calamiteux sur la mode Kaboul, on fait comme si on y était pour rien et on s'en va, parce que de toute façon, on n'était pas invité. Ouais. Alors, c'est vrai qu'en Afghanistan, ils s'étaient invités d'une curieuse façon. Mais c'est ça. Alors, le dernier élément important, c'est la question de la Turquie.
Oui, exactement. Bon, Erdogan.
Erdogan,
il a été, donc, il a rencontré Poutine, certainement. Et ils en ont parlé, évidemment, de la Syrie et la frontière. Et là, le problème d'Idleb, ça a été discuté. Et je pense que c'est actuellement. La Syrie, d'ailleurs, l'armée syrienne, elle a complètement encerclé Idleb. Et il y a eu des échanges de tirs, mais très, très violents à ces jours-ci. Idleb, à mon avis, elle sera libérée d'ici peu de temps. Hein, et ça va pas...
Voilà. C'est-à-dire que les djihadistes qui tiennent Idlib ne tiennent que parce qu'ils ont l'appui de l'armée turque, qui est présente, y compris elle-même, et qui assure les approvisionnements en munitions, en matériel, etc. Ouais. Donc dès l'instant, et c'est ça... Alors, il n'y a pas eu beaucoup de commentaires officiels, c'est-à-dire qu'à la rencontre de Sochi entre Poutine et Erdogan, ils se sont abstenus de faire la fameuse conférence de presse où chacun dit la sienne à la fin et tout, mais chacun a exprimé son sentiment. Et ce qu'a dit Erdogan, c'est très intéressant par rapport à ce qu'on en disait la semaine dernière, c'est que, de toute façon, on a beaucoup de désaccords, mais chaque fois qu'on se voit, ça avance.
Oui.
Ça veut dire qu'il accepte que des choses soient réglées et qu'on n'en parle plus. Hein. Et on le comprend, parce que rétrospectivement, aussi inquiet qu'on puisse être des positions... colonialiste de la Turquie, j'en ai parlé la semaine dernière, mais le fait que, par exemple, dans le cas de la guerre d'Arménie et d'Azerbaïdjan, la Turquie ait dit, ben voilà, bon, il y a un cessez-le-feu, c'est la Russie qui l'organise, et puis j'obéis, ben, ça c'est une chose très très importante.
Ah, oui.
Donc il semble bien que dans ces rencontres entre ces deux personnages très différents par ailleurs, Erdogan baisse d'un cran. C'est-à-dire que l'autre doit lui dire, bon, on sait ce que tu veux, on te connaît, pas de souci, hein, mais ça, c'est non. Hein. Et donc, petit à petit, ça doit cheminer. Je pense que c'est ça qui est en train de se passer à Idlib, c'est-à-dire qu'il est effectif que si l'armée turque n'est pas là, les djihadistes n'ont plus aucun espoir de survie. Voilà. Et donc, c'est ça qui est probablement en train de se passer. J'espère que dans 8 jours, on pourra donner des nouvelles encore plus positives.
Exactement,
mais une fois qu'Idlib est libéré, c'est... pas tout à fait la quasi-totalité du territoire.
Mais à ce moment-là, les Américains, ils ont...
Voilà, et ça veut dire, voilà, et la frontière... Et là, on est alors dans une position qui est une position de droit international de la Russie, c'est-à-dire que les frontières reconnues sont intangibles. On ne joue pas... Hein, Monsieur Erdogan, écoutez bien, on ne joue pas à déplacer les frontières. Hein. On ne joue pas.
Ça a été clair. Oui.
Voilà, on ne joue pas à créer un État kurde chez les autres. Hein, ça se fait pas. Hein. Alors, je pense que Erdogan, enfin Poutine, je ne sais pas s'il parle le même ton que moi, mais je pense que c'est ça le contenu de son discours. Et je sais, par différentes vidéos qu'on a vues du personnage, que quand il veut être glacial et dire non, il est tout à fait dans la peau du personnage.
Ah, ouais,
ça,
ouais.
C'est non. Ouais. Niet. Hein. Bon, vous avez compris. Bon. Et on va peut-être, finir sur Poutine lui-même.
Ouais.
Et puis on reviendra sur la Syrie, si tu veux. Parce que, vous savez, donc, il y a eu des élections parlementaires en Russie il y a très peu de temps, qui ont donné des résultats, en gros, alors avec des commentaires sur la fraude, etc., mais disons des résultats où le parti officiel, le parti Russie Unie, a baissé quand même dans les sondages. Le deuxième parti installé au niveau de la Russie, c'est le parti communiste de la Fédération de Russie.
Ouais.
Et puis il y a encore d'autres partis. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que Poutine lui-même est en train de tirer les leçons. Parce que les conditions sont remplies pour qu'il les tire, parce que je pense qu'il savait très bien ce qui allait arriver. C'est-à-dire, il a fait une intervention sous forme de visio à tous les partis nouvellement élus dans la nouvelle Douma, dans le nouveau Parlement, en leur disant « Messieurs, vous êtes aujourd'hui à la tête de la Russie ». Alors pas tout à fait à la tête, mais c'est le pouvoir législatif. Notre travail et votre travail à tout, et c'est la mission que je vous donne et que vous devez remplir, c'est d'éliminer la pauvreté sur le territoire de la Fédération. Il y a énormément à faire.
Oui,
les écarts de revenus sont considérables. Il y a des gens qui ont, il ne l'a pas dit, trop d'argent, mais il les connaît parce qu'il les a fréquentés, les fameux oligarques, hein, tout cela. Et d'une certaine façon, il a laissé comprendre que la politique de Russie unie qu'il a menée, la Russie dans cet état-là, c'est-à-dire d'énormes inégalités sociales, elle avait fait son temps. Puisqu'il s'adresse à tout le monde, à la droite, à la gauche, en disant maintenant la tâche, c'est que le peuple russe soit heureux. Hein. Arrêtons le reste. Alors, sous-entendu, moi, du point de vue stratégique et militaire, j'ai fait mon boulot. C'est-à-dire que personne n'attaquera la Russie, vu les moyens dont elle s'est dotée. Mais maintenant, il faut que le peuple russe soit content de vivre en Russie. C'est ça. Et il y a des gens, alors je terminerai là-dessus, qui interprètent ça comme une espèce de premier pas de Poutine vers la sortie. C'est-à-dire, il ne veut pas rester jusqu'à sa mort au Kremlin. Hein. Mais il dit, voilà ce qu'il y a à faire. Hein, et voilà le sens dans lequel je veux que vous alliez tous ensemble, droite et gauche, Russie unie, Medvedev, les oligarques et tout, parce qu'il sait la capacité de nuisance des oligarques, il la connaît, il s'est affronté à eux tellement de fois pour leur dire arrêtez, vous exagérez et tout. Hein. Il sait aussi que Medvedev, qui est le président de son parti, le président de la Russie unie, n'est pas un type très très clair politiquement. Hein. Il est plutôt un peu pro-occidental. Hein. Et donc il met ça en perspective en disant le but maintenant, vous allez gouverner la Russie. probablement sous-entendu, moi je ne suis pas là pour 25 ans, hein, mais voilà ce qu'il faut faire pour que ça tienne le coup, pour que vous duriez, pour que notre pays dure. Hein. Et on voit arriver, alors là c'est une hypothèse qui est dans la presse, je la lis pour ce qu'elle est, le remplaçant pourrait bien être, c'est ce qui se dit à Moscou, c'est pourrait bien être l'actuel ministre de la Défense, M. Shoigu.
Shoigu.
Alors Shoigu, il faut savoir, c'est un Sibérien, c'est un Asiatique. Hein. Et Shoigu, alors je termine là-dessus, ben c'est très révélateur. Dans une récente conférence qu'il a donnée, Shoigu, il a dit un propos qui me semble, du point de vue de la géopolitique, tout à fait important. Il a dit « Il faudrait que la Russie déplace sa capitale vers l'Est ». Les grandes villes de la Russie, c'est Saint-Pétersbourg et Moscou, sont en fait d'abord trop peuplées. Il y a un déséquilibre démographique sur le territoire de la Fédération, c'est évident. Mais en plus, cette proximité avec l'Occident est une mauvaise chose. Le centre de gravité de la Russie, ça doit être quelque part... Vous savez qu'il vient d'un petit État, Shoigu est originaire, puis on le voit sur son visage, ouais, qui est très très proche de la Mongolie. Et il dit, le centre de gravité de la Russie, c'est par là qu'il faut le déplacer. Il faut aller au-delà de l'Oural. Parce que dans la situation mondiale, vu nos rapports avec la Chine, vu nos rapports avec le reste de l'Asie centrale, le centre de gravité de la Russie, il faut le déplacer progressivement. Alors, il dit pas du tout, on va déménager, s'en aller. Il dit, non, mais il faut revoir les choses. Maintenant, nous campons au cœur de l'Eurasie. Il faut que nous prenions les dispositions pour faire ce travail-là. Hein ? On a la Russie, on le sait, la Russie des Tsars a beaucoup copié l'Occident, qui était la lumière à l'époque. Hein. Mais Shoigu se dit, maintenant, la lumière vient aussi de l'Est. Alors, mettons-nous à jour, il y a deux lumières, hein, et soyons au centre du dispositif. Voilà, ça, on y reviendra certainement.
Vas-y, vas-y. Je voulais simplement dire que la somme que j'ai distribuée...
Oui, dis-le, oui.
C'est vrai, 7,5 millions des livres syriennes, grâce aux donateurs qui se trouvent dans l'association de solidarité et d'aide franco-syrienne. Je le remercie de bon cœur.
C'est un gros travail qui se fait. Voilà, c'est aussi le travail discret de fourmi qui se fait pour apporter un peu de chaleur humaine et un peu d'aide à ceux qui ont souffert de la guerre, hein, veuves, enfants, orphelins, handicapés. C'est
exactement,
ça le bilan de cette guerre.
Ouais.
Merci beaucoup, Sidi. Merci beaucoup, Habib. Et merci, Sidi. Voilà.
À la semaine prochaine. Radio Galère.
Merci à Radio Galère.